époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar.
I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad.
But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters.
Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society.
Definitely.
Class change.
Definitely. Mm-hmm.
Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Floraison, dans le deuxième épisode de la deuxième saison. Nous retrouvons Francis Dupuy-Déry, que nous avions déjà reçu dans la première saison pour discuter d'anarchie, d'entraide et de Black Bloc. Aujourd'hui, c'est pour un sujet différent, celui de la masculinité. L'épisode que vous allez écouter est un enregistrement d'une rencontre publique de Francis Dupuy-Déry à la librairie Terre de Livres à Lyon en octobre 2019. Il y présente ses recherches, La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace, paru aux éditions du Remue-Ménage. Encore désolé pour la qualité de nos podcasts lorsqu'il s'agit d'une conférence. Les conditions d'enregistrement public sont ce qu'elles sont. On vous souhaite toutefois une bonne écoute.
Tu viens de sortir donc La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace. Du coup, c'est un titre un peu provocant et je voulais te lancer directement là-dessus en fait. J'ai fait une petite revue de presse, j'ai tapé mâle blanc hétéro dans Google.
T'es tombé sur ma page Wikipédia.
Je suis tombé direct sur ta page Wikipédia. Du coup, quand on tape mâle blanc hétéro dans Google, et on tombe sur plein d'éditos, d'éditorialistes divers, surtout de droite, on va dire. Du coup, d'après eux, l'homme blanc hétéro serait une nouvelle espèce menacée, qui serait les victimes d'un déclassement généralisé du mâle. Il serait l'objet de fatwas meurtrières, piétiné depuis des années, transformé en paria minoritaire par les ayatollahs du politiquement correct, assimilé à une espèce nuisible. Et d'ailleurs, on les tue souvent. Et la chasse à l'homme blanc serait donc ouverte. Et l'on assisterait au développement d'une idéologie de destruction punitive systématique et quasi génocidaire de l'homme hétérosexuel blanc. Du coup, quand on lit ces personnes-là, la crise de la masculinité, ça n'a pas l'air d'être vraiment un mythe, ça a l'air d'être un délire... Est-ce que c'est un délire ultra paranoïaque? Et dans ce cas, quelle place prend la paranoïa dans le discours de la crise de la masculinité? Et est-ce que c'est vraiment un mythe s'il y a autant de gens qui le prennent autant à cœur? Ce phénomène-là.
Oui, merci. Donc, vous m'entendez, ça va? Donc, le titre du livre, c'est effectivement La crise de la masculinité avec un sous-titre Autopsie d'un mythe tenace. J'avais eu un petit débat avec les éditrices au sujet du titre. Est-ce qu'on met un point d'interrogation, pas de point d'interrogation? Est-ce qu'on met pas de sous-titre? En tout cas, bref. Et donc, elles ont joué sur l'ambiguïté en espérant évidemment en vendre beaucoup si les gens ne lisaient pas le sous-titre. Et ça a modérément fonctionné, mais donc oui, c'est ça. Donc moi, ma thèse, c'est évidemment que c'est un mythe. Je ne sais pas si c'est de la paranoïa. Je pense que c'est plutôt un discours... parce que paranoïa, ça donne une connotation, disons, psychologique à la réaction. Moi, je ne suis pas psychologue, je suis politologue. Et j'ai tendance à voir un peu tout en termes de rapport de pouvoir et de lutte de pouvoir et de rapport de force. Et pour moi, donc, le discours de la crise de la masculinité, c'est une rhétorique, c'est de la propagande qui sert à faire plusieurs choses en même temps. Donc, quand on dit qu'il y a une crise de la masculinité, premièrement, évidemment, on dit que les hommes vont mal. Donc, c'est la première chose qu'on dit. On dit qu'il y a une crise, donc on dit qu'il doit y avoir une cause à la crise. Évidemment, quand on dit qu'il y a une crise de type, par exemple, une inondation, généralement, il y a plus ou moins de débats dans la société à savoir si la montée des eaux, c'est positif ou négatif. Généralement, les gens qui sont touchés par une inondation considèrent que c'est une crise et ils interpellent les autorités pour qu'on leur vienne en aide. Donc, quand on lance un discours de crise dans l'espace public, on interpelle l'opinion publique, on interpelle les autorités. Donc, en fait, le discours de la crise de la masculinité, il dit plusieurs choses. Il dit donc que les hommes vont mal, mais il identifie la cause. La cause, évidemment, dans ce cas-là, c'est pas une inondation, ce sont les femmes et les féministes, ou les femmes émancipées, ou les femmes qui refusent de rester à la place que les hommes voudraient leur voir tenir. Donc, il peut avoir, en fait, très peu de femmes qui dérogent aux normes, mais ça suffit à ce que certaines personnes commencent à parler d'une crise de la masculinité. Et donc, comme c'est un discours de crise, ça interpelle aussi l'opinion publique ou les autorités ou différentes instances, voire même le mouvement féministe, pour dire il faut s'occuper des hommes, il faut se préoccuper des problèmes des hommes. Et la dernière chose, peut-être, qui est moins évidente, c'est que si on tient un discours de la crise de la masculinité, c'est que, en fait, on présume ou on postule qu'il y a une masculinité et qu'il y a une masculinité qui devrait être préservée ou restaurée. Généralement, on s'est associé à un certain nombre de stéréotypes et de clichés. Qui identifie la masculinité de manière cliché, stéréotypée et positive, mais on dit aussi, dans le même souffle, qu'il y a une féminité. Et cette féminité, elle est aussi associée à certains stéréotypes et certains clichés, certains rôles et fonctions. Et il y aurait crise, donc, quand l'homme n'aurait pas assez de repères ou de modèles qui correspondent aux stéréotypes et quand les femmes, donc, dérogeraient aux stéréotypes. Et juste pour terminer sur cette question spécifique du mythe, je ne sais pas si c'est totalement convaincant, mais une de mes manières d'essayer de démontrer que c'est un mythe a été, dans le livre, et c'est lié en fait à mes propres découvertes quand j'ai fait de la recherche sur ce thème-là. Il y avait des choses que je ne savais pas à l'avance, évidemment. Et entre autres, j'ai fait de la recherche donc sur le thème de la crise de masculinité. Et j'ai été vraiment étonné, ça a été une vraie surprise, de découvrir le travail d'historiennes et de quelques historiens qui indiquaient en fait qu'il y avait des discours similaires aux discours de crise de masculinité. Déjà dans la Rome de l'Antiquité et en tout cas certainement après le Moyen-Âge, donc en Occident, vers le 16e siècle, dans les deux cours d'Angleterre et de France en tout cas. Et là, c'est les plus hautes autorités des royaumes, le roi lui-même des deux côtés de la Manche, les autorités ecclésiastiques, des auteurs littéraires de pièces de théâtre ou de poèmes de l'époque qui mettaient en scène, en fait, ou qui jouaient cette chanson de la crise de la masculinité en dénonçant déjà à ce moment-là les femmes, principalement les courtisanes, donc à la cour. Elles leur reprochaient, bon, c'est effectivement des situations terribles, là. Les courtisanes, il y avait effectivement un vrai problème en termes de puissance pour la cour d'Angleterre et la cour de France, c'est qu'en fait, les courtisanes portaient les cheveux courts. Donc, vous voyez, évidemment, ça, c'est un problème qui me préoccupe beaucoup. Et vous voyez très bien que ça peut pas aller du tout. Et donc elles étaient, disait-on, le roi lui-même disait, elles sont trop masculines. Les courtisans, eux, sont trop féminins parce qu'ils se poudrent, ils se maquillent. Et donc, déjà au 16e siècle, on a ce discours de la crise de la masculinité, puis on l'a pendant 300, 400, 500 ans. Éventuellement, on pourra parler de différentes étapes là, dans l'histoire où le discours ressurgit. 17e, 18e, 19e siècle, 20e siècle et aujourd'hui. Donc, le simple fait que en Occident, en fait, pendant 500 ans, on puisse entendre le discours de crise de la masculinité, je dirais, quel que soit le régime juridique, le droit de la famille, le système politique, le système économique, les référents culturels, l'influence de la religion ou pas, par exemple catholique ou protestante, déjà, c'est suspect. Dans des contextes où, par exemple, les femmes ont à peu près... Au Moyen-Âge, ça allait beaucoup mieux pour les femmes par rapport aux hommes, mais après le Moyen-Âge, ça, c'est vraiment... c'est devenu catastrophique, comme le monde Silvia Federici, par exemple. Et donc, on est dans des périodes au 18e, 19e siècle où les femmes ont vraiment très, 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 très peu de droits par rapport aux hommes. Et quand même, il y a des hommes qui disent qu'il y a une crise de masculinité. Il y a des hommes qui parlent de crise de masculinité au 19e siècle. Juliette Rennes l'a bien montré, parce qu'il y a une première femme qui veut devenir médecin ou une première femme qui veut devenir juge. Qui rentre en faculté de médecine ou à faculté de droit. Donc, il n'en faut vraiment pas beaucoup pour qu'on parle de crise de la masculinité. Et l'autre surprise, donc ça, c'était ma surprise que j'avais eue en voyant le travail des historiens et des historiennes. Et l'autre surprise que j'ai eue, c'est en faisant des recherches par mots-clés. Donc, moi, je n'ai pas les mêmes recherches que toi. Donc, moi, j'ai cherché crise de la masculinité en anglais et en français dans des moteurs de recherche de type plus universitaire. Et là, j'ai vraiment été étonné. De découvrir que, en fait, on parle de crise de masculinité aujourd'hui, en 2019, 2015, 2010, en fait, partout sur la planète, dans des pays comme la Russie, où, bon, pour moi, c'est deux manières de démontrer d'une certaine manière que c'est un mythe, peut-être ça ne convaincra pas tout le monde, mais c'est de dire, si ça fait 500 ans en Occident qu'on répète ça, et si maintenant on le dit partout sur la planète, c'est que c'est quand même un peu suspect.
Dans ton livre, tu insistes beaucoup sur l'articulation qu'il peut y avoir entre masculinité, entre les suprémacismes, en fait, entre le suprémacisme masculin, le suprémacisme de race, de nationalité, et comment, avec ton regard, parce que du coup tu es québécois, comment tu as pu appréhender ce discours de la crise de la masculinité en France, dans un contexte où, comme on le voit, il y a un discours aussi sur la masculinité blanche, française, qui se construit par rapport à une masculinité peut-être arabe, etc. Est-ce que tu as un regard là-dessus, et comment tu le traites dans ton ouvrage, du coup?
C'est l'autre élément, c'est un des éléments aussi qui est intéressant ou drôle ou terrible avec le discours ou la thèse de la crise de la masculinité, c'est que ça peut vraiment être mobilisé pour expliquer tout et n'importe quoi et par tout le monde à la fois. Et effectivement, ça peut se croiser avec des discours, évidemment, homophobes, par exemple, mais aussi avec des discours racistes et des discours militaristes aussi. Et donc, dans le livre, je donne plusieurs exemples qui sont tirés, entre autres, de beaucoup des États-Unis, un peu de la France. Oui, donc je suis tombé, par exemple, sur une étude complètement hallucinante d'un type, un psychosociologue, qui essaye d'expliquer l'histoire des États-Unis à travers le concept de la crise de la masculinité des hommes blancs aux États-Unis. Et donc, il arrive à expliquer, c'est assez pratique pour lui, il arrive à expliquer, en fait, le colonialisme, l'extermination des peuples autochtones, l'esclavagisme, puis après ça, en fait, le lynchage des anciens esclaves, les guerres contre l'Espagne, entre autres, les Philippines, puis après ça, la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre du Vietnam. Il a oublié la guerre de Corée, vous aurez remarqué. La guerre du Vietnam et puis, bon, toutes les autres, là. Et à chaque fois, il donne comme explication, ben, c'est la crise de la masculinité. En fait, les hommes blancs américains, à ce moment-là, sont en crise de masculinité. Ils sont inquiets pour leur masculinité. Et donc, vous comprendrez que quand des hommes blancs sont en crise de masculinité, ben, en fait, ils massacrent d'autres peuples pour qui, apparemment, ça va, il n'y a pas de souci. Et donc, évidemment, ce type d'explication est selon moi, complètement absurde. Au mieux, c'est une justification. Au pire, c'est une imposture intellectuelle, évidemment, qui explique rien. On a étudié la crise de la masculinité aussi. Mais du coup, on peut aussi renverser le syndrome et dire non, en fait, c'est pas les hommes blancs américains qui sont en crise de masculinité, c'est les hommes arabes, par exemple. Donc, dans le New York Times ou dans le Washington Post, il y a eu des exemples d'articles qui expliquaient l'attaque du 11 septembre 2001, dont vous avez entendu parler, j'imagine. C'est bon. Donc, l'attaque du 11 septembre 2001 qui était expliquée par la crise de la masculinité de l'homme arabe, je mets en guillemets, parce que quand les hommes arabes sont en crise de masculinité, ils détournent des avions, ils les lancent dans les bâtiments. Mais il y en a d'autres aussi qui ont poussé l'analyse pour expliquer, par exemple, ce qu'on a appelé le printemps arabe en 2011, donc les révoltes populaires au Maghreb. Ils les ont expliqués par la crise de la masculinité, c'est-à-dire c'est des jeunes hommes arabes qui, pour des raisons à cause du chômage, n'arrivent pas à se marier et donc ont leur virilité mise en cause. Et donc, quand ils ont leur virilité mise en cause, ils renversent des régimes autoritaires qui sont là depuis 30 ou 40 ans. Donc la solution, c'est le mariage. Le mariage est une notion anti-révolutionnaire, ce qui est peut-être pas tout à fait fou d'ailleurs. Mais donc vous voyez bien qu'on peut le tourner dans un sens ou dans l'autre. Vous avez peut-être entendu parler d'un intellectuel qui s'appelle Éric Zemmour, qui malheureusement ne peut pas être ici avec nous aujourd'hui. Parce qu'il était à CNews, si je ne suis bien compris. Donc lui, par exemple, dans son livre « Le premier sexe », que vous avez peut-être lu, en 2006, il commence son livre avec une mise en scène où il dit « Je discutais avec un jeune homme qui avait de la difficulté à draguer. Vraiment, je ne comprends pas parce que moi, je n'ai jamais eu de difficulté à draguer. » Donc ça, on comprend parce qu'effectivement, Zemmour est un être éminemment charmant. Mais plus il avance dans son explication et plus, évidemment, il fusionne en fait le discours de la crise de la masculinité avec des propos totalement arabophobes et islamophobes où en fait, là, il va dire tout à la fois que le problème en France, c'est que l'homme français, donc vous imaginez quelle est la référence, là, l'homme français, c'est l'homme français, il est en crise de masculinité à cause des féministes et du féminin qui s'impose dans la société française, et donc il n'est plus capable de défendre la France, c'est-à-dire son territoire, son quartier, ou son épouse, sa famille, face au dernier mâle en France qui est encore vraiment viril, qui est le jeune arabe des banlieues, donc cet archétype, cette sorte de stéréotype qui serait un violeur en puissance et donc qui serait celui qui menacerait le territoire français et les femmes françaises. Mais en même temps, si le jeune homme arabe, lui, est un violeur en puissance, c'est parce que lui aussi est en crise de masculinité, parce qu'en fait, une vraie masculinité est supposée de pouvoir... On est supposé de s'auto-discipliner. On a eu la figure d'un père qui nous a montré les modèles, etc. Et donc, on se retrouve vraiment dans un monde où tout le monde est en crise de masculinité. Si vous me permettez, je vais juste terminer avec un exemple qui montre ça aussi, qu'on peut le mettre dans tous les sens. Il y a eu beaucoup d'explications anthropologiques ou anthropo-psychologiques pour expliquer les problèmes auxquels font face et que subissent en fait la communauté afro-américaine aux États-Unis. On a beaucoup évoqué ce problème de la crise de masculinité aux États-Unis pour expliquer les problèmes de la communauté afro-américaine, c'est-à-dire plus spécifiquement l'absence du père, donc des familles monoparentales en fait de mères, gérées par les mères afro-américaines. Et donc, dans les années, au début des années 60, il y a eu un rapport publié par la Maison Blanche, qui porte bien son nom, qui s'appelait le rapport Monahi. C'était le nom du type qui avait écrit le rapport, qui était un démocrate, et qui après ça va devenir prof à Harvard, etc. Bref. En tout cas, lui, il reprend le discours de la crise de la masculinité pour expliquer les problèmes des communautés afro-américaines. Les problèmes des communautés afro-américaines dans les années 60, c'est... petite criminalité, toxicomanie, problèmes scolaires à l'école, délinquance, etc. Et il dit le problème des communautés afro-américaines. Bon, il commence son rapport en disant oui, il y a des enjeux de racisme dans la société, mais il faut bien voir qu'en fait, le problème des communautés afro-américaines, il est dans la communauté afro-américaine, c'est l'absence du père et la position dominante des mères qui écrase en fait les garçons. Et les garçons n'ont pas de modèle masculin et pas de modèle de père. Et donc, il se retrouve en prison. Donc, je vais être un peu spoiler. Je vais vous dire la fin du rapport. Donc, la fin du rapport, c'est qu'il propose une solution. On est dans les années 60. Donc, la solution, évidemment, c'est que les jeunes hommes afro-américains, en fait, s'enrôlent dans l'armée américaine. Parce que là, ils vont trouver une figure d'autorité. Ils vont trouver une structure et ils vont apprendre en fait à s'auto-discipliner après avoir été disciplinés et ils vont pouvoir revenir à la vie civile s'ils survivent à la guerre du Vietnam. Ils vont pouvoir revenir à la vie civile et être un vrai homme, vous me suivez? Et donc évidemment, les Afro-Américains et Afro-Américaines ont dénoncé ce rapport et ce discours en disant qu'en fait, c'est un discours raciste. Mais dans la mesure où, comme j'ai dit, le discours de la crise de la masculinité peut être pris par tous les camps et de tous les côtés, le problème, c'est qu'à la fin des années 60 et dans les années 70, il y a des leaders du mouvement Black Power qui ont commencé, en fait, à prendre ce discours, à l'appliquer, à le récupérer ou à l'utiliser eux-mêmes pour, en fait, bloquer, en fait, ou discréditer les revendications de femmes afro-américaines dans le mouvement du Black Power, dont des afro-féministes. Et donc, les afro-féministes vont critiquer, en fait, leurs camarades. Je pense entre autres à Michael Wallace et à Bellouk, entre autres, qui analysent vraiment ces débats qu'il y a dans les années, fin des années 60, début des années 70, entre Afro-Américains et Afro-Américaines, qui sont dans le mouvement d'émancipation des communautés afro-américaines, mais où les femmes disent ben là, il y a un problème, parce qu'en fait, nos propres leaders sont en train de reprendre le discours de la crise de la masculinité qu'on critique quand c'est les Blancs qui l'appliquent, qui l'utilisent pour parler de nous, mais quand c'est nos propres leaders, c'est problématique. Et les leaders disent à ces femmes fortes, ces féministes de leur mouvement, ils leur disent ce qu'on entend aujourd'hui entre Blancs, c'est vos revendications nous menacent, vous êtes trop imposantes, trop dominantes, vous n'êtes pas assez féminines, et nous, en fait, les hommes noirs, on a besoin de s'affirmer face à l'homme blanc, et en ce moment, vous minez notre virilité, et vous devriez être beaucoup moins critique et revendicatrice. Nous avons un ennemi commun qui est évidemment le racisme et l'homme blanc, et les afro-féministes dont je viens de vous parler disent, ben non, il y a un problème, en fait, si dans le mouvement lui-même, il y a ce genre de discours qui a pour effet, en fait, de nous discréditer, de discréditer nos voix féministes à l'intérieur du mouvement. Oui. J'arrive jamais à le prononcer correctement, mais c'est Monahi, je pense, M-O-N-A-H, il y a un H quelque part, Y quelque chose. Je pense que c'est la famille noire. Malheureusement, le terme, c'est le terme de l'époque, là, mais je pense que c'est de Negro Family. Désolé pour le terme, là, mais... c'est 62 ou quelque chose comme ça, il se retrouve en ligne en anglais. Là. Alors, le masculinisme, c'est une expression. Donc là, c'est des travaux plus anciens que j'ai menés avec d'autres, avec des féministes. En fait, Mélissa Blais, entre autres, qui est une historienne et une sociologue de Montréal, avec qui je collabore depuis près de 15 ans maintenant, qui est une spécialiste, entre autres, de l'attentat antiféministe à l'école polytechnique le 6 décembre 89. Ça va faire 30 ans bientôt. Là, il y a eu un homme était rentré à l'école polytechnique de Montréal avec une arme semi-automatique et avait séparé les hommes et les femmes dans des salles de classe et avait demandé aux hommes de sortir et avait abattu des femmes et avait laissé une lettre de suicide en disant qu'il détestait les féministes et qu'il menait une guerre contre les féministes qui avaient ruiné sa vie. Donc ça, c'est Mélissa Blais. Avec qui j'ai mené des recherches. Et donc, il y a plusieurs années, on avait fait un ouvrage collectif qui s'appelait « Le masculinisme au Québec », où là, on définissait le masculinisme. Donc Mélissa m'a aidé à comprendre que, un peu comme pour le mouvement féministe, ou d'ailleurs pour tous les mouvements sociaux, que ce soit les mouvements pour le climat, ou que ce soit même les mouvements syndicaux, ou même les mouvements anarchistes et d'autres mouvements, il y a différents courants et différentes tendances qui s'expriment dans différents discours ou organisations ou types de priorités ou mobilisations. Et donc, il y a l'antiféminisme qui est une sorte de parapluie. L'antiféminisme est le phénomène global. Et dans l'antiféminisme, il y a différents courants qui sont différents selon le temps, selon les situations, selon les pays aussi, selon les époques. Et donc, aux États-Unis, par exemple, ou à certains moments en France ou ailleurs, l'antiféminisme auquel on va penser, ça va surtout être, par exemple, un antiféminisme catholique contre le droit des femmes à l'avortement, par exemple, qui peut être extrêmement violent aux États-Unis. Il y a des attentats. les gens d'extrême droite sont antiféministes. Il y a un antiféminisme nationalisme, il y a même de l'antiféminisme à l'extrême gauche. Et donc, il y a différents types d'antiféminisme, il y a différents types d'enjeux. Quand les femmes demandaient le divorce, il y avait des enjeux dessus, quand c'est l'avortement, etc. Donc, selon les moments, l'antiféminisme prend différentes formes et différents types de discours. Et donc, comme dit Mélissa Blais, donc, il y a différents courants. Et un des courants, c'est le masculinisme. Et le masculinisme, donc, c'est un discours que vous commencez à comprendre, j'imagine, qui est ce discours qui dit « les hommes vont mal à cause des femmes émancipées et à cause des féministes et à cause de l'influence trop grande de la domination des valeurs féminines dans nos sociétés ». Donc, c'est un des courants de l'antiféminisme. C'est un courant qui s'exprime dans des discours, donc qui est porté par des chroniqueurs, des historialistes, des romanciers, des intellectuels, des polémistes, etc., par possiblement aussi votre oncle ou votre frère, ou je sais pas, qui peut être porté par des femmes aussi. Des femmes peuvent être antiféministes, évidemment. Et qui est porté par certaines organisations militantes qui ne sont pas les mêmes, par exemple, que l'antiféminisme catholique. Entre autres, les groupes de pères séparés et divorcés. Il y a plusieurs pères séparés et divorcés qui vont voir des groupes de pères parce qu'ils ont besoin de conseils ou ils sont un peu à la recherche d'écoute ou de conseils juridiques gratuits, si possible. Et donc, ils vont y aller deux, trois fois. Donc, je ne dis pas que chaque père qui va dans une rencontre de groupe de pères ou qui va demander conseil à un groupe de pères est nécessairement antiféministe ou masculiniste. Mais dans les animateurs de ces groupes, il y a beaucoup de personnes qui tiennent le discours de la crise de la masculinité, qui disent c'est une catastrophe. Donc, pour les hommes. Donc, le masculinisme, c'est un courant antiféministe. Je tiens à préciser que quand Mélissa et moi, nous avions sorti le livre en 2008 ou 9, je ne me rappelle plus, là, on avait eu des discussions avec d'autres féministes au Québec. Il y avait des féministes qui n'étaient pas sûrs que c'était une bonne idée de vraiment comme mettre un nom sur ce courant-là et de l'appeler masculiniste parce qu'il y avait une sorte de risque que ça donne une sorte de symétrie entre le féminisme et le masculinisme. Donc je mentionne ce petit débat maison quand même.
Hyper étonnant dans ton livre, c'est on apprend que souvent le masculinisme ou les mouvements masculinistes ont une dimension très spiritualisée. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? On voit par exemple aujourd'hui qu'il y a par exemple des stages qui s'organisent pour aider les hommes à se reviriliser, retribaliser via un peu des rituels peut-être oui. chamaniques ou ce genre de choses. Et du coup, on apprend aussi qu'il y a une tradition aussi chrétienne dans ce mouvement des hommes que tu analyses.
Oui.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette dimension spirituelle des mouvements masculinistes?
Oui. Donc, je viens juste de dire qu'il y avait des courants, mais que c'était différent selon la situation et que c'était plus ou moins... que ça se chevauchait plus ou moins. Des études qui ont été menées par des collègues là, dans les pays, des anciens pays du bloc de l'Est, entre autres la Pologne et l'Ukraine, si je ne me trompe pas, sur les groupes de pères séparés et divorcés, parce qu'il y en a là aussi, des pères séparés et divorcés, et des groupes, montrent que, par exemple, dans ces pays, dans la mesure où dans ces pays, il y a des forts mouvements catho-nationalistes, en fait, il y a une sorte de fusion en termes de discours et de vision du monde, dans ces groupes de pères où ils amalgament en fait le discours de la crise de la masculinité version France, Québec, États-Unis, Australie, Grande-Bretagne, mais ils le fusionnent avec un discours catho-nationaliste. Donc ils vont parler de Dieu, la famille, la nation, donc le divorce attaque Dieu et la destruction de la famille par les féministes attaque évidemment la force de la nation et c'est une insulte à Dieu. Ce qu'on trouve vraiment pas beaucoup dans les groupes de pères séparés, divorcés, il doit en avoir qui pensent ça, mais en général, le discours est vraiment laïque, pour utiliser un mot embêtant. C'était quoi la question? Ah oui! Par ailleurs, j'ai dit tout à l'heure rapidement que les trois grandes religions, en tout cas celles qui sont grandes pour nous, on pouvait y trouver le discours de la crise de la masculinité. J'ai même trouvé des discours de la crise de la masculinité chez les catholiques par rapport au Vatican et tout, quand même. Bon, C'est vrai que le pape porte une robe, donc on comprend qu'effectivement il y a un problème de masculinité. Mais donc même les catholiques, par exemple, vont dire, des catholiques vont dire, oui, dans les paroisses, les femmes prennent trop d'influence, il n'y a pas de place pour les hommes qui veulent s'investir dans la communauté paroissiale, etc. Bon, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans une paroisse, donc j'avoue que je ne savais pas ça, mais... Et donc, ils vont organiser des retraites pour hommes. C'est un modèle qui vient un peu des États-Unis, qui a été... Il y a vraiment des catholiques français qui sont allés voir ces activités-là aux États-Unis, qui sont allés observer, vraiment, et ils les ont ramenés en France. Donc, si ça vous intéresse, là, malheureusement, je n'ai pas le numéro de téléphone, mais c'est pour les hommes, là. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez aller passer une fin de semaine avec, vos frères spirituels pour repenser à votre masculinité dans une perspective catholique. Aux États-Unis, il y a la même chose pour les femmes. Je ne sais pas si là, en France, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des retraites pour femmes pour réapprendre... que la principale richesse ou force du féminin, selon les catholiques, donc c'est d'être ouvert à l'amour, évidemment, et vous devez accueillir l'amour de Dieu et de votre futur conjoint. Donc vous avez pris ça en note, donc vous n'avez pas besoin d'aller à la retraite. Mais pour vous dire quand même que ça, c'est nouveau, entre guillemets, mais en fait, ça reprend des pratiques du fin du 19e siècle, où à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, entre autres, il y a eu un moment très important de discours de la crise de la masculinité, vers 1895-1914 à peu près, où même le président Roosevelt, à l'époque, tenait ce discours de la crise de la masculinité. Il avait un discours très, très viriliste. Lui, d'ailleurs, arrimait militarisme et revirilisation des hommes. Il était explicite là-dessus. Il disait que l'Amérique avait abandonné les garçons, qu'il fallait redonner leur fierté aux garçons. Et donc, à la fin du 19e siècle, vous aviez ce discours de la crise de la masculinité. Et comme il y a un discours de la crise de la masculinité, comme j'ai dit au tout début, il y a une interpellation de la société. Et on appelle à des ressources pour les hommes. Et on veut mobiliser des ressources. Et donc, à la fin du 19e siècle, où je vous rappelle, en fait, les femmes aux États-Unis n'avaient à peu près aucun droit face aux hommes, vous commencez à avoir, en fait, des ressources qui sont mises pour les hommes, des institutions qui sont établies pour les hommes, dont il y a le livre ici, donc c'est parfait. Donc, c'est la création des Boy Scouts. Les Boy Scouts, il y a des déclarations explicites par le fondateur des Boy Scouts qui dit « c'est pour permettre de reviriliser les garçons ». Le sport amateur, qui est une pratique aussi qui est principalement orienté vers les garçons et les jeunes hommes à l'époque, le sport amateur, différents clubs d'hommes, et du côté catholique et chrétien, et là, dans ce cas-là, c'est du côté des socialistes chrétiens, donc aux États-Unis, il y a des socialistes chrétiens, en France aussi, d'ailleurs, à l'époque, vous allez avoir le développement de ce qu'ils vont appeler l'approche du muscular Christianity, donc c'est la christianité musculaire. Et ils vont développer un discours au sujet de Jésus. Vous avez entendu parler de Jésus, j'imagine. Au sujet de Jésus, qui dit Jésus, oui, est amour et tout, mais en fait, il faut comprendre que Jésus était force. Jésus est force et est une puissance masculine parce qu'il a résisté à la tentation, il a vécu 40 jours dans le désert, il a évidemment souffert lors de sa mise à mort. Et donc, ils organisaient des camps de recristianisation et de revirilisation des hommes à partir de cette image de Jésus comme homme viril. Si je peux me permettre une anecdote sur Jésus. J'ai trouvé un truc incroyable dans mes recherches. J'en ai trouvé plein, en fait, mais j'ai trouvé un truc incroyable dans mes recherches. Il y a un psychologue québécois et un psychologue français qui, en fait, ont eu la même idée. Ils disent que Jésus, sur la croix, donc il a été crucifié, Jésus, et il aurait dit « Père », donc là, la version québécoise, évidemment, c'est du tutoiement, donc « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et le psychologue français, il dit « Père, pourquoi vous m'avez abandonné ?» Mais bon, ça, c'est pas très grave. De toute façon, il parlait pas français. Mais donc, le discours de la crise de la masculinité récupère la mise à mort de Jésus comme la preuve que le père de Jésus était absent. Donc, et qui, et qui, Et donc c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, pour là, je vais vraiment spoiler le truc, mais en fait, pour tout vous dire, en fait, le punch de l'histoire, c'est pas qu'il est mort, c'est qu'il est ressuscité. En fait, c'est ça qui est vraiment important. Et Dieu, en fait, l'a pas du tout abandonné. Évidemment, son père l'a pas abandonné. De toute façon, c'est la Sainte Trinité. Donc, en fait, ce sont les trois ensemble tout le temps avec le Saint-Esprit. Mais ces psychologues ont utilisé cette image pour dire voilà l'exemple d'un fils sans modèle paternel.
Pour préparer la rencontre, j'ai lu un livre de Tania Modleski, qui est une féministe américaine, qui a écrit Le féminisme sans les femmes. Et c'est une critique du concept de post-féminisme. Et en gros, son idée, c'est de dire que c'est un piège que de penser qu'on serait entré dans une ère post-féministe, parce que ça a tendance à faire croire que la révolution féministe a eu lieu et que, du coup, on serait dans une espèce de nostalgie d'une ère d'avant le féminisme, où les rapports entre les sexes seraient plus simples, etc. Et aujourd'hui, en faisant mes recherches du coup sur les moteurs de recherche avec des mots-clés, je suis tombé sur des articles comme ça qui parlaient de l'ère, qu'on serait entré dans l'ère post-MeToo.
Ah oui, déjà ?
Oui, ça y est.
Le temps s'accélère.
C'est ça. Donc ça y est, on est dans l'ère de l'après-MeToo, et du coup, on est dans l'ère des post-masculinités. Est-ce que c'est pas un piège du coup pareil? Est-ce qu'il n'y a pas un continuum aussi dans ce discours-là, de la crise de masculinité jusqu'à ce discours post-MeToo et post-masculin, de dire qu'en fait les hommes doivent se réinventer ou que la révolution féministe a eu lieu? Est-ce que c'est pas un piège que de croire ça, de faire croire ça?
Dans le discours de la crise de masculinité, c'est sûr qu'il y a ce discours de le féminisme est allé trop loin. Et donc, je recite Mélissa Blais qui se dit toujours « Mais où sommes-nous allés, en fait ? Et à partir de quand étions-nous trop loin ?» Et donc, c'est effectivement pas clair. Mais que le féminisme, et de toute façon, ça, on peut entendre ça indépendamment du masculinisme ou du discours de crise de masculinité, que le féminisme, c'est quelque chose de passé parce qu'en fait, l'égalité est atteinte. Et en France, vous avez la chance d'avoir eu la Révolution française de 1789, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, et qui a mis par écrit les principes d'égalité, de liberté, de solidarité pour les hommes, mais c'est pas grave, c'était les principes, et dans une perspective idéaliste, donc, il y a plusieurs personnes en France qui disent, mais de toute façon, à partir de là, les fondements du patriarcat sont foutus, c'est juste une question de temps, donc... Rassurez-vous, un peu de patience, la Révolution française c'était il n'y a pas si longtemps, et c'est juste que pour les hommes français, des fois c'est un peu long à métaboliser tout ça. Mais donc oui, c'est ça. Donc la question du post-féminisme, post-patriarcat, post-MeToo, je ne l'avais pas entendu. Aux États-Unis, il y a eu aussi le discours du post-racisme avec la présidence de Obama. Donc, évidemment, tous ces discours sont problématiques de mon point de vue. Hein. Après ça, bon. Cela dit, il y a les autres discours que tu mentionnes qui sont des discours qu'on a entendus depuis quand même les années 70. En fait, que j'ai lu là-dessus, je ne sais pas si vieux, mais des années 70 où effectivement, il y a des hommes qui vont dire le féminisme, en fait, c'est une occasion pour les hommes pour repenser la masculinité. Selon ce que j'en comprends, il y a même une partie du mouvement gay qui est quand même dans cette perspective-là, qui dit ben, heureusement qu'il y a eu le féminisme parce que ça a quand même bien dégagé, ou en tout cas ils ont travaillé ensemble. Si, je ne sais pas si le féminisme c'était avant, mais en tout cas ils ont travaillé ensemble clairement et c'était des forces alliées.
Qu'est-ce qu'ils devraient faire plutôt que se réinventer?
Ah, il pourrait commencer par faire la vaisselle, mais mais déjà c'est beaucoup plus simple. En fait, mais c'est moins glorieux. Mais
est-ce que le risque, c'est pas que les hommes prennent cette situation comme l'occasion de faire du développement personnel pour mecs et qu'ils en oublient que la transformation, elle doit être, elle doit profiter aux femmes et à l'émancipation
oui.
des femmes.
Donc, dans le livre, j'ai tout un passage sur l'histoire du mouvement des hommes, mais dans les années fin des années 60, donc il y a en tout cas, c'est documenté pour les États-Unis assez bien. C'est une question de documentation aussi, là. Je n'ai pas accès à tous les pays, je ne dis pas toutes les langues. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est très clair qu'à la fin des années 60, donc je reviens aux États-Unis à la fin des années 60, guerre du Vietnam, tout ça, Des hommes, principalement des hommes blancs dans ce cas-là, ma compréhension, qui sont entre autres à Berkeley, donc une université très progressiste qui est en ébullition à ce moment-là. C'est des jeunes hommes d'extrême gauche, anti-impérialistes à l'époque, révolutionnaires, ces mouvements de la jeunesse, etc. Et donc, dans ce mouvement, il y a des conflits entre les femmes et les hommes. En fait, beaucoup de femmes considèrent que les hommes révolutionnaires prennent beaucoup de place. En fait, des problèmes similaires à ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure sur le mouvement afro-américain. Comme dans le cas du mouvement afro-américain d'ailleurs, les afro-féministes ou les féministes radicales blanches aux États-Unis, elles viennent beaucoup en fait de ces mouvements révolutionnaires qui au départ sont mixtes et qui ont des objectifs politiques comme les droits civiques ou même plus radical encore du côté du Black Power et anti-impérialistes révolutionnaires du côté blanc, et tout ça c'est un peu allié ou plus ou moins, en tout cas ça dépend des situations. Mais du côté des blancs, donc à Berkeley, il y a des jeunes hommes révolutionnaires dont leurs copines, on imagine, ou leurs collègues de classe ou leurs camarades de groupe politique deviennent féministes radicales et s'organisent en groupes de parole, donc les groupes de conscience, les groupes de parole, et eux disent, ben en fait, nous, on est solidaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, en fait, ils font la même chose. Ils s'organisent en groupes de parole d'hommes antipatriarcaux, antisexistes, bon, révolutionnaires et tout. Et aux États-Unis, dans les années 70, c'est assez bien documenté. Assez rapidement, en quelques années, il va y avoir des collectifs comme ça d'hommes. Il va y avoir, en fait, on va commencer à parler du mouvement des hommes, ou mouvement de libération des hommes. Et il va même avoir des conférences annuelles à New York ou ailleurs d'hommes. Qui là, il se retrouve des centaines d'hommes dans des conférences annuelles avec différents ateliers sur différents thèmes. Mais le problème de ces groupes, et donc là, c'est là où moi je suis plutôt pessimiste, il y a des gens qui sont optimistes qui disent non, c'est bien que les hommes se retrouvent ensemble pour discuter. Mais en tout cas, cet exemple-là plus concret, nous appelle à être prudents parce que, en fait, rapidement, selon ce qu'on en voit, et c'est la même chose qui est arrivée au Québec, en tout cas, ça s'est documenté aussi, rapidement, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, dans ces groupes d'hommes, il y a des hommes, en fait, qui ont voulu de plus en plus parler de leurs problèmes en tant qu'hommes, comment eux-mêmes étaient opprimés par le patriarcat ou le sexisme ou les rôles de sexe, mais pas dans une perspective, disons, d'émancipation queer, dans une perspective d'hommes hétérosexuels. Et puis, ben, comme c'est la vie hein, à l'université, ben, à un moment donné, les couples, c'est plus des couples, et puis c'est plus leur copine, en fait, leur copine de tout à l'heure. Et donc, là, ils ont commencé à se lamenter sur la rupture et sur leur ancienne copine, etc. Puis là, après ça, ils ont commencé à se dire, oui, mais dans le fond, en fait, mon père, c'est pas si facile pour ça, pour lui d'être père. Et en fait, ce sont rapidement devenus des groupes d'où sont partis déjà les gays, parce que c'était des discussions qui tournaient beaucoup autour de l'hétérosexualité. Donc, les gays qui étaient mobilisés ont décidé d'aller former leur propre réseau. Et dans ces groupes, soit les mêmes personnes ont commencé à changer d'attitude, ou d'autres personnes sont arrivées. Mais en quelques années, en fait, les antisexistes ont réalisé qu'ils étaient en fait minoritaires. Et ils se sont retrouvés même dans des colloques, dans des congrès annuels, où en fait il y avait des ateliers sur comment trouver le meilleur avocat en cas de divorce, ou même comment en fait engager des détectives privés pour suivre votre ex. Et donc là, on n'était pas vraiment dans la même perspective de l'antisexisme révolutionnaire de Berkeley. Et au Québec, il est arrivé un peu le même. C'est un peu le même parcours qui s'est reproduit, un peu décalé dans le temps. Et vous aviez ici à Lyon, malheureusement, qui est décédé, Léo Thiervidal. Peut-être certains d'entre vous l'ont connu ou ont lu ses textes, qui m'a quand même convaincu que il m'a renforcé, disons, dans mon pessimisme par rapport au groupe d'hommes. Je suis plutôt méfiant. Mais je sais qu'il y a des expériences, il y a différents types de catégories d'hommes aussi, et différentes manières de parler, mais dans ma compréhension, c'est clairement pas la même chose si vous mettez d'un point de vue, disons, politique, indépendamment des bienfaits socio-psychologiques ou psychologiques ou émotionnels de parler de soi avec d'autres, mais d'un point de vue des objectifs politiques ou des possibilités politiques, pour moi, c'est pas, ou du potentialité politique, pour moi, c'est pas du tout la même chose d'avoir un groupe de femmes ou un groupe d'hommes.
Dans ton livre, tu lances aussi des avertissements qu'on entend peu à destination des milieux de gauche, d'extrême gauche. Toi, tu es militant anarchiste, tu es un penseur anarchiste, on peut dire ça. Du coup, tu donnes aussi un peu, comment dire, les, Ouais, les pièges à éviter pour les personnes qui sont engagées dans les mouvements de gauche, et notamment dans les mouvements anarchistes. Et tu parles d'intellectuels comme par exemple Alain Badiou, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre sous cet angle antimasculiniste, où justement tu révèles qu'en fait il a des discours misogynes, etc. C'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup en France, la critique elle n'est pas vraiment entendue. C'est quoi les pièges du masculinisme à gauche aujourd'hui à éviter?
En fait, le ça aussi c'est des discussions avec Mélissa qui m'a aidé à comprendre l'antiféminisme en général, mais le masculinisme peut-être en particulier. C'est un peu risqué de dire ça de manière aussi affirmative, mais en fait ça défie un peu les comme le racisme d'ailleurs. Et l'islamophobie, ça défie le spectre droite-gauche ou extrême-droite, extrême-gauche à laquelle on est habitué de... En tout cas, à laquelle nous, en sciences politiques, on a l'habitude de positionner les acteurs et les actrices. Et on peut dire, ça fait toujours plaisir, on peut dire que tendanciellement, l'antiféminisme est plutôt à droite et à l'extrême-droite. C'est vrai pour le racisme et l'islamophobie aussi, par exemple, mais qu'on peut tout à fait être de gauche ou d'extrême gauche et être aussi antiféministe ou misogyne, ou évidemment agresseur d'ailleurs, ou raciste et islamophobe. Si vous voulez des noms, je vous en donnerai tout à l'heure. Vous avez juste allumé la télé. Ah oui. Et donc évidemment, et là c'est reformulé un peu. Donc si vous êtes à l'extrême gauche, évidemment vous allez reformuler ce type de discours sur l'antiféminisme de manière pas du tout originale. En fait, ça fait 150 ans que dans ce qu'on appelle le mouvement socialiste, pour faire le plus large possible, là, qui englobe toutes les tendances, disons, sauf le PS. Le mouvement socialiste, il a critiqué le féminisme. Donc, il y avait différentes manières de le critiquer. Évidemment, le féminisme était bourgeois, le féminisme était individualiste, le féminisme était ceci, cela, bon. Et la vraie lutte principale, vous connaissez tout ça, j'imagine, c'était la lutte contre le capitalisme ou contre le patronat, etc. Et donc, c'était au mieux une lutte secondaire ou au pire, vraiment une perte de temps et un truc qui divisait. Bon. Donc, ça, on a ça chez les anarchistes, on a ça chez les socialistes, chez les marxistes et tout. On a ça, pendant 150 ans, on a ça. Et donc, vous avez en France en ce moment, vous avez, entre autres, dans le livre, je parle plus spécifiquement de deux intellectuels, Alain Badiou, donc peut-être que vous connaissez, qui se présente comme un philosophe communiste de trajectoire Mao. Et donc, Alain Badiou, c'est sympa, vous pouvez aller voir, ça va vous prendre une bonne heure de votre journée, une conférence vidéo au Collège de France, je pense, ça s'appelle « La féminité ». Et donc, c'est passionnant. J'ai appris plein de choses. Entre autres, qu'on peut, en fait, faire une conférence d'une heure sur la féminité sans citer aucune femme. Il a réussi ça. Donc, il cite Baudelaire, Hegel, Goethe, Kant. Il cite beaucoup de monde, mais il n'a pas cité de femmes. Mais c'est vrai que, bon, les femmes ne sont pas nécessairement spécialistes de la féminité. Et il dit ça. Il dit, en fait, le problème aujourd'hui en France, c'est que... la féminité est conquérante, combative, et la masculinité est affaiblie, elle n'est pas valorisée, entre autres au niveau des garçons par rapport au rôle du père. Et là, Badiou commence à discuter plus spécifiquement de ce que vous appelez les banlieues. Et il dit les jeunes filles des banlieues, donc on imagine les jeunes filles d'origine arabe, on imagine, pour le dire comme ça, elles, en fait, elles sont encouragées à performer, à réussir, à consommer, c'est très important. Et les jeunes hommes arabes, eux, n'ont pas de modèle, pas de référence, pas d'encouragement. Et donc, en fait, on est vraiment dans une situation problématique. Et il dit en fait ce féminisme, c'est un féministe individualiste, c'est un féministe de la consommation, c'est un féministe en fait qui est l'allié du capitalisme. Michéa, donc, qui se présente comme socialiste libertaire, lui, il a des passages absolument extraordinaires sur la domination des mères sur leurs fils. Parce que les mères dominatrices dans le discours masculiniste dominent seulement leurs fils. Il y a pas de façon dans le discours masculiniste, il n'y a pas de filles. Donc ça, c'est des familles très particulières. Le problème, c'est pas l'absence du père, c'est l'absence des filles. En fait, il n'y a pas de filles. Et donc la mère est dominatrice et donc Michéa dit bon, la mère est dominatrice. Elle écrase psychologiquement le garçon. Le garçon ne se retrouve pas là-dedans. Et mais Michéa reprend ce discours de qu'on retrouve d'ailleurs chez Soral et chez des gens qui sont pas du tout associés à la gauche, mais en fait Coulstard aussi, Michel Coulstard, qui est un espèce de vieux communiste, philosophe communiste qui a inspiré Soral aussi, qui tient ce discours-là, qui dit en fait le féminisme c'est une invention du capitalisme et ce que le féministe propose aux femmes c'est d'avoir une carte de crédit et de consommer, et donc en fait vous êtes les alliés objectifs du capitalisme. Ce qui est une analyse très bizarre d'un point de vue marxiste. Moi je savais pas que c'est les consommateurs qui contrôlaient le système capitaliste, mais bon, apparemment c'est ça. Et c'est un double analyse bizarre, parce qu'en fait d'un point de vue des statistiques, moi ma compréhension c'est que les femmes en général vous avez moins d'argent que les hommes, donc par définition les hommes consomment plus, on a plus d'argent, donc mais apparemment c'est votre petite consommation qui est problématique, et ça pour moi ça fait quand même écho à des vieilles pratiques de contrôle patriarcal, de les dépenses des femmes sont frivoles, à gaspiller de l'argent, alors que nous, évidemment, nos dépenses sont importantes, surtout quand on va boire des bières après le match avec les amis. Là, on a quand même besoin de se reposer un peu des fois.
Vous dites que les femmes allaient mieux au Moyen-Âge. J'ai du mal à comprendre.
Oui, en fait, il y a des débats en historiographie sur les rôles de sexe et les rapports sociaux de sexe au Moyen Âge. Moi, je m'inspire d'historiennes. J'ai mentionné Sylvia Federici, mais elle écrit en fait sur le post Moyen Âge, mais d'autres aussi qui disent en fait que au Moyen Âge, en fait, les rapports étaient beaucoup plus égalitaires entre les hommes et les femmes. Peut-être moins dans les hautes sphères, mais quoique encore. Bon, en France, au Royaume de France, vous avez eu la bonne idée d'imposer la loi salique, donc ça vous avez réussi à éviter qu'il y ait des reines. Mais en Angleterre, par exemple, il y a Kate Blanchett qui a eu un règne vraiment important. Et donc, en fait, au Moyen-Âge, les femmes pouvaient être reines. D'ailleurs, au Canada, c'est encore notre chef d'État, c'est la reine Elisabeth II, qui ça vient du Moyen-Âge, mais pas Elisabeth II, elle n'est pas si vieille que ça, mais en fait, ce système. Donc, en haut, il pouvait y avoir des femmes qui dirigent politiquement, qui lèvent des armées, qui lèvent des impôts, qui rendent justice, ce que les républicains ont totalement arrêté. Quand ils ont fait la révolution, ils ont dit non, il n'y a pas question. Après ça, évidemment, la République, il y a eu des modifications, mais ça a pris quand même trois générations. Et après ça, dans les classes, en tout cas dans les catégories sociales, en fait, le Moyen-Âge, c'est principalement des sociétés de paysannes. Probablement 85 ou 90% de la population est paysanne. Et donc, dans des communautés paysannes de type médiéval, qui ne sont pas des productions industrielles pour vendre, en fait, la production, c'est en grande partie des productions de pour vivre. Et donc, il n'y a pas de séparation. Il y a une très faible séparation entre le privé et le public. Il y a très peu d'utilisation de l'argent. En fait, les gens au Moyen-Âge pouvaient passer des semaines sans utiliser d'argent. Puis c'est pas parce qu'ils utilisaient leur carte de crédit, là. Ils faisaient juste pas... Ils vivaient de la terre. Et donc, il n'y a pas une très forte division sexuelle du travail. Il n'y a pas cette différence entre les hommes propriétaires ou les hommes qui sortent de la maison pour aller chercher leur salaire et qui reviennent, et les femmes sont à la maison et s'occupent de tâches moins valorisées. Il y a en fait, pas partout, mais il y a en fait des... en fait, au Moyen-Âge, il y a à de très nombreux endroits des... ce qu'on appelait les communautés d'habitants qui géraient le commun dans les villages. Et donc, les villages étaient propriétés en principe des seigneurs. C'est ce que moi, j'ai appris quand je jouais à Donjons et Dragons. Mais en fait, les seigneurs, comme les rois, au Moyen-Âge, ils faisaient rien, ces gens-là. Ils organisaient des balles, ils chassaient, puis ils faisaient la guerre à un moment donné, puis ils obligeaient leurs serfs à travailler un peu. Mais c'était pas eux qui géraient l'école, c'était pas eux qui géraient la santé, c'était pas eux qui géraient le travail. Il y avait à part pour les corvées. Et donc, les villages avaient des communs. Et le commun, c'était géré par la communauté d'habitants. C'était pas la propriété du seigneur. et il y avait des assemblées d'habitants. Il pouvait avoir des assemblées d'habitants 10, 12, 14 fois par année. Et dans les assemblées d'habitants, il y avait de 10 à 14, 15 % de femmes qui participaient aux assemblées d'habitants. Donc, les femmes pouvaient y participer. Et après ça, vous aviez les guildes professionnelles, plutôt dans les villes ou dans les communes, où là, vous avez en fait des métiers qui sont presque des métiers uniquement de femmes, où des guildes sont mixtes et les salaires sont plutôt égaux. Il n'y a pas cette différence entre les salaires entre les hommes et les femmes. Et après ça, au Moyen-Âge, vous avez tout le développement des monastères, où il y a des monastères masculins, des monastères féminins. Évidemment, en principe, le monastère, il est soumis à une charte par rapport au Vatican ou au pape, mais ces femmes, en fait, elles c'est pas des squats, mais elles s'autogèrent, en fait. Elles vivent, concrètement, elles vivent sans hommes. C'est quelque chose d'hallucinant, les monastères, quand on y pense. C'est des dizaines de milliers de femmes qui vivent en autogestion et en propriété collective. Donc là, c'est plusieurs exemples que je vous donne. Il y a moins de distinctions au niveau des vêtements, par exemple. Et à partir du 12e, 13e siècle, là, ça commence à être moins rigolo parce que, entre autres, l'Église catholique commence à avoir un développement théologique au niveau de la théorie et qui va influencer, en fait, le droit, où, en fait, là, il va avoir un très fort travail idéologique sur la distinction entre les sexes, des fonctions spécifiques. Ça va être renforcé par le droit. Et en 200-300 ans, on se retrouve dans ce que Silvia Federici appelle le nouvel ordre patriarcal. C'est-à-dire que là, on arrive donc tout ça pour vous dire que l'histoire, elle n'est pas purement évolutive. Il peut y avoir des périodes d'avancée, de recul, etc. Donc, c'est ma compréhension du Moyen-Âge. Il y a peut-être des spécialistes du Moyen-Âge aussi qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, j'espère peut-être. Mais on se base sur des procès-verbaux d'assemblées d'habitants. On se base sur les rois, les reines, tout ça. On se base sur les procès-verbaux et les listes de membres des guildes. On se base sur les monastères, c'est les monastères. On se base sur la loi et on se base sur le développement de la... Des théories théologiques. Et puis bon, après ça, le Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge. Hein, ça dure des siècles, et puis il y a plein de différences de coutumes, de traditions. C'est pas évidemment homogène, le Moyen-Âge, là, mais c'est ma compréhension. C'est qu'en fait, par rapport, par exemple, au droit romain et à Athènes, le Moyen-Âge européen chrétien... beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus égalitaire et libertaire par rapport aux hommes et aux femmes par rapport aux hommes, qu'avant et que les 300-400 ans de la modernité avant, disons, le 20e siècle. Commencer par faire une déclaration d'autorité pour me donner un peu de légitimité. Et donc, j'ai fait un mémoire de maîtrise, qui est chez vous un mémoire de master, parce que master, ça fait plus sérieux, mais nous, on est juste des maîtrises, on parle français, c'est bizarre. Et donc, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur la sociobiologie, mais qui n'était pas directement sur la sociobiologie des rapports de sexe, mais c'est sur la sociobiologie. Donc, j'ai quand même un peu bouquiné sur les théories sociobiologiques, soit principalement les théories génétiques. Et je ne suis pas biologiste, hein, évidemment, je ne suis pas neurologue ou généticien ou quoi que ce soit, là, mais j'ai un peu bouquiné ces trucs-là. Puis après ça, mais c'était sur les questions de guerre et révolution et tout. Puis après ça, quand je suis tombé sur les discours de crise de la masculinité, évidemment, il y avait beaucoup la question des déterminismes biologiques, des différences entre les hommes et les femmes. Moi, mon point de vue, mais bon, après ça, évidemment, ça relève presque de la métaphysique, tout ça. Mais ma compréhension, c'est que les explications biologiques... Les explications sociobiologiques, que ce soit pour les hommes ou les femmes, mais que ce soit pour d'autres phénomènes aussi, ce sont des explications qui sont généralement... qui ont un fort pouvoir de conviction. Surtout si, en plus, vous donnez des exemples avec des animaux. On est très vulnérable à ça. Et je pense qu'il y a des raisons culturelles, c'est-à-dire qu'on a... On a les fables de La Fontaine, on a Disney, on a cette facilité à anthropologiser les vies animales et vice-versa. Et donc, Et donc, on se convainc assez rapidement que nos comportements, nos identités ou nos pratiques ou nos actions s'expliquent biologiquement et peuvent s'expliquer en se comparant à des animaux. Et moi, je considère que c'est des... au final, ça devient des explications très, très faibles et que c'est beaucoup plus intéressant, en fait, en plus, ça demande moins de qualifications scolaires. Que plutôt que de faire de la génétique ou de la biologie, c'est beaucoup plus intéressant, je pense, de lire de l'anthropologie ou de l'histoire. Et je pense que quand on lit de l'anthropologie et de l'histoire, on découvre en fait que l'humanité a... c'est une espèce de bazar incroyable de manières d'organiser les rapports entre les sexes, les rapports familiaux, les rapports sexuels, les rapports amoureux, les identités de ceci, de cela. L'humanité, elle a à peu près tout expérimenté, des fois en même temps, des fois séparément, des fois sans le savoir, des fois en le sachant, des fois en conflit, des fois pas en conflit, etc. Et donc, moi, je suis vraiment de l'école... J'ai une conviction ferme, c'est que les identités de sexe ou de genre sont réellement sociologiquement et anthropologiquement construites. Donc, je ne dis pas qu'elles n'ont pas d'influence. En fait, elles ont beaucoup d'influence. En fait, je pense que c'est notre socialisation la plus forte, en fait. On est socialisé avec des hommes et des femmes avant même de venir au monde par nos parents, quand ils savent le sexe de l'enfant, dans le ventre. Le père ne va pas parler avec le même ton de voix, par exemple, sur le ventre de la mère s'il pense qu'il parle à un fœtus féminin ou masculin. Donc, c'est vraiment une socialisation très, très forte. Donc, elle a des effets concrets, mais on n'a pas besoin de la biologie pour expliquer ça. Et donc, la crise de la masculinité, si vous voulez revenir à la crise de la masculinité, elle s'explique en partie par la volonté de défense de cette identité masculine socialement construite avec des valeurs, des aptitudes et des qualités qui sont construites comme masculines. Donc, vous les connaissez en principe, c'est l'autonomie, la raison, la force, la compétitivité, la bravoure, l'action, etc. Et évidemment, on a vraiment la logique de deux sexes opposés, puisque le féminin, ça serait donc l'émotion, la bienveillance... la douceur, la dépendance, etc. Right? Mais ça c'est pas biologique. Et de toute façon, c'est juste faux, en fait. Pour revenir aux mères monoparentales de tout à l'heure, là, je pense que elles sont pas mal plus rationnelles et actives et combattantes que beaucoup d'hommes qui pensent l'être. Et qui sont dépendants. Affectifs et matériellement. Et donc... Et en plus, je pense que dans la réalité, quand on regarde attentivement, indépendamment, quand on arrive à arrêter de voir par stéréotypes, parce qu'en fait, la socialisation de genre, selon moi, elle nous fait voir en premier les stéréotypes. Donc, je vous regarde, je vous identifie comme femme et je vois des stéréotypes féminins par rapport à vous. Et donc, ça m'empêche de voir des caractéristiques que vous pourriez avoir qui seraient identifiées à des caractéristiques masculines. Mais en fait, je pense que les êtres humains, ils sont capables de les attitudes que je viens de nommer, je pense qu'elles sont humaines. Et je pense même qu'il y a des individus qui ont ces différentes attitudes tout ensemble dans la même journée, selon avec qui ils interagissent. Et j'espère d'ailleurs qu'on est capable d'une certaine flexibilité d'adaptation d'aptitudes selon avec qui on interagit. Si vous interagissez dans une émeute face à un policier, j'imagine que vous n'avez pas les mêmes caractéristiques que si vous interagissez avec un enfant qui a besoin que vous changiez sa couche. J'espère pour l'enfant, en tout cas. Et à la limite, j'espère même pour le policier. Mais bon, ça, c'est un autre... Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Et donc, ce sont ces attitudes-là, ces attitudes humaines. Et c'est pour ça que pour moi, par exemple, l'idée de métier masculin ou féminin, c'est nécessairement idéologique. Et on le voit dans l'histoire. Il y a des métiers qui sont considérés comme masculins, qui deviennent féminins, qui redeviennent masculins. Comme les... Bon... Moi, je suis vieux, donc je me rappelle à l'époque où, avant qu'on paye des frais administratifs aux banques, il y avait en fait des vrais humains qui nous servaient. Et maintenant qu'ils ne sont plus là, on paye des frais administratifs pour être servis par le guichet. Mais donc, ces commis de banque au guichet, ces commis de banque, au début du 20e siècle, être commis de banque, c'était un métier masculin. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent. Et évidemment, nous, les hommes, on est évidemment meilleurs avec l'argent. C'est pour ça qu'on en a. Mais le problème, c'est que les hommes, on est aussi bons à la guerre. Et donc, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, en fait, on est parti faire la guerre. Alors, pendant ce temps-là, quand on fait la guerre, on a vraiment besoin que les banques fonctionnent. Et donc, là, les femmes ont commencé à être commis de banque. Et en fait, on a dit, ben oui, en fait, c'est normal, c'est un métier féminin, parce qu'il faut cette espèce de d'attention aux détails là, que les femmes ont, tu vois, pour changer l'argent. Puis là, bon, après ça, le problème pour les femmes, c'est qu'en fait, il y a eu des survivants. Donc, en fait, ils sont venus. Et là, en fait, on s'est dit, non, en fait, c'est de l'argent. Et ça serait bien, en fait, que les vétérans, ils s'occupent de l'argent parce que c'est un métier d'homme. Donc, en une génération, le même métier est devenu masculin, féminin, masculin. Et donc, ça, ça n'a rien à voir avec les homards ou avec les gènes ou avec l'ADN ou avec... Il y a aussi Claudine Cohen, je pense, qui est une anthropologue spécialiste de la préhistoire, qui dit, avec d'autres, que, en fait, il faut se méfier des mythes de l'âge des cavernes et de les hommes chassaient le mammouth et tout ça, là, parce qu'elle dit, en fait, la meilleure position qu'on a par rapport au premier temps de l'humanité, elle dit la meilleure position qu'on doit avoir, c'est une position agnostique, c'est-à-dire que nous ne savons pas comment les sociétés humaines vivaient, encore moins comment les hommes et les femmes vivaient dans leurs relations amoureuses et sexuelles, et comment gérer les enfants, on n'en a aucune idée, en fait. Et elle dit, on n'en aura probablement jamais aucune. Elle ne s'est pas en retrouvant un bout de tibia puis un bout de mâchoire là, qu'on sait qui lavait la vaisselle ou des trucs comme ça. C'est juste impossible. C'est impossible. On ne peut faire que des... En fait, on fait des projections inverses. On regarde le bungalow américain avec la famille nucléaire, puis on dit, ah, ben, la caverne, le bungalow, le pavillon, c'était la caverne. Donc, en fait, on projette le modèle d'aujourd'hui sur... Mais c'est absurde, en fait. Non, mais moi, je vous ai dit au début que c'était... j'ai une perspective politique sur cette question. Et donc, c'est des discours, c'est des rhétoriques réactionnaires conservatrices, même si ça se retrouve des fois à gauche et à l'extrême gauche. Et donc, c'est des rhétoriques de... C'est des discours de justification ou de privilèges ou de système de domination inégalitaire ou c'est des discours de critique ou de délégitimation du mouvement des hommes et des femmes et de l'émancipation des femmes. Mais comme j'ai dit au tout début, j'ai dit quand on parle de crise de la masculinité, on parle nécessairement aussi de l'identité des hommes, l'identité des femmes, etc. Donc c'est une manière de réaffirmer à chaque fois des choses. Et donc en parlant de discours de la crise de la masculinité, en fait, on fait plusieurs choses en même temps. Et donc c'est très utile, quoi.
J'ai l'impression que le discours de la crise de la masculinité, ça part en fait d'une position dominante de l'homme, mais... Est-ce que ça a toujours été comme ça?
Enfin,
qu'est-ce qui a amené l'homme à cette position dominante?
Ah, ça, j'ai aucune idée, ça. vous voulez parler du début du patriarcat?
Ouais.
Moi, je sais, ça, j'ai pas de théorie là-dessus. Moi, je me fie à des féministes comme Carol Patman et tout qui disent, et je redis Claudine Cohen, qui disent, en fait, au début, on ne sait pas. Et donc, comme on ne sait pas, on est mieux de travailler sur ce qu'on sait et ce qui est plus proche de nous. Et donc, moi, ma théorie, c'est pas une théorie, mais moi, ma conception des enjeux politiques en général, pas juste cette question-là, mais d'autres enjeux, c'est pour ça que je m'intéresse quand même un peu au Moyen-Âge, c'est moi, je pense que notre société aujourd'hui, elle est très fortement déterminée par le Moyen-Âge. La matrice de notre société aujourd'hui, c'est le Moyen-Âge ou sa sortie. Et c'est vrai, indépendamment du thème d'aujourd'hui, donc la France, c'est le royaume de France, la Grande-Bretagne, c'est le royaume d'Angleterre, l'Espagne, c'est le royaume de... etc. Donc, les parlements, ils ont été inventés au Moyen-Âge par des rois qui convoquaient les grands du Seigneur pour les aider à lever des impôts et des taxes. Au fil des générations, ils ont dit « on veut consentir à chaque impôt et taxe », puis ils ont eu des privilèges, puis maintenant, on a encore l'Assemblée nationale. Mais en fait... au Canada, c'est encore plus clair. On a la Chambre des communes et le Sénat, c'est le des Commons, et c'est la Chambre des Lords du Moyen-Âge. C'est le même système, c'est juste que c'est plus héréditaire. Maintenant, c'est plus des chevaliers, c'est des anciens gérants de banque ou des anciens journalistes ou des anciens policiers. Ça, c'est déjà mieux, mais on aime mieux qu'ils soient anciens. Mais c'est ça. Et donc, moi, ma compréhension, c'est que si on veut essayer de comprendre dans une perspective historique, on n'a pas du tout besoin. En fait, c'est même une erreur d'interprétation, par exemple, d'aller à Athènes pour penser à la démocratie. Notre démocratie n'a absolument rien à voir avec Athènes. C'est un autre mythe. On n'a pas besoin d'aller à Rome, pas vraiment non plus, quoique ça a influencé un peu la République américaine. Ils ont pris l'aigle et le Sénat, ça vient de ça. Bon, ils se sont inspirés parce qu'ils étaient éduqués. Les pères fondateurs avaient des cours d'histoire romaine et tout. Et donc, moi, je ne peux pas vous expliquer le début du patriarcat. Mais en fait, ce que je peux vous dire en étant au Québec, c'est que, en fait, quand les Français arrivent dans le territoire qu'on va appeler le Québec plus tard, en Nouvelle-France, les communautés autochtones qui trouvent sur les territoires du nord-est américain, donc ce qu'ils vont appeler la Nouvelle-France, en termes de rapport de propriété, de rapport politique et de rapport de sexe, ça ne fonctionne pas du tout comme en Europe à ce moment-là. Et y a des communautés autochtones où, en fait, les femmes sont vraiment dans des positions subalternes et subordonnées, mais il y a des communautés autochtones, comme les Mohawks, par exemple, où les rapports sont beaucoup plus égalitaires. Et aussi, en fait, très important, les rapports des adultes avec les enfants, c'est pas du tout des rapports de domination comme on a en Europe à l'époque. Et donc, moi, je suis pas sûr que c'est utile d'aller chercher une origine du patriarcat qui aurait déterminé un patriarcat identique et pareil partout sur la planète. Je pense que c'est en fait y a de multiples expériences et organisations et tout ça. On me demande la colonisation, est-ce que ça s'inscrit dans ce que je viens de dire sur d'où on vient, c'est ça? Oui, ben, de toute façon, moi je viens du Québec, donc c'est sûr que je viens de la colonisation. S'il n'y avait pas eu de colonisation, en fait, j'habiterais à Lyon et en fait, je suis en train de faire une présentation à Montréal. Ça irait dans l'autre sens. Mais oui, non, la colonisation, elle vient de l'Occident. Et donc, les États, les proto-États européens qui se développent au 16e, 17e siècle, ils sont imposés comme modèle d'organisation politique sur le reste de la planète, même s'il y avait d'autres États comme en Chine ou en Éthiopie ou ailleurs, mais en Égypte. Mais oui, c'est sûr. Mais je suis content que vous parliez des chasseurs-cueilleurs parce qu'en fait, y a, du côté des marxistes, entre autres, il y a cette idée que l'État apparaît à partir du moment où on passe de chasseurs-cueilleurs à l'agriculture. Et puis le patriarcat aussi serait une création d'un passage de chasseurs-cueilleurs à l'agriculture. Parce qu'avec l'agriculture, il y a une sorte de sédentarisation. Puis de, bon. Mais en fait, les Mohawks dont je vous parle, c'est des agriculteurs. Et ils n'avaient pas d'État et ils n'avaient pas de propriété privée. Et, parce qu'en fait, ils cultivaient, mais en commun. Et vous avez d'autres exemples. Moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup impressionné. Je suis vraiment pas spécialiste là du Nigeria, mais les Igbo au Nigeria, il y avait comme donc eux, ils ont été colonisés par les Britanniques. Et donc là, c'est vraiment une anecdote, mais que je trouve c'est une histoire que j'aime raconter parce que je la trouve fascinante. En 1929, il y a la guerre des femmes. C'est les Britanniques qui vont appeler ça la guerre des femmes. Parce qu'en fait, ils se font, leurs bâtiments administratifs se font charger en fait, par des milliers de femmes Igbo qui sont en tenue de guerre et champ de guerre et qui attaquent les bâtiments. Et donc, les Britanniques, évidemment, sortent les mitraillettes et en massacrent des dizaines. Et puis, c'est la fin de la guerre des femmes. Et après, ils vont faire une commission parlementaire parce que c'est des Britanniques. Et les officiers qui ont fait la Première Guerre mondiale, pour plusieurs, disent que c'était plus terrible encore que les Boches, là, quand ces femmes Igbo nous chargeaient. On n'avait jamais vu une pareille furie, c'était bon. Donc les femmes Igbo, qui sont dans un territoire contrôlé par les Britanniques, et qui sont en principe un des fleurons de la civilisation libérale et du régime parlementaire et de la liberté, etc., à l'époque, encore aujourd'hui en principe, les femmes Igbo, en fait, tenaient des assemblées de femmes. On appelait ça des mikiri, ou en tout cas, c'est ce que l'anthropologie nous apprend, des mikiri. Elles avaient des rapports plutôt égalitaires avec les hommes, Igbo. Elles pouvaient participer à l'assemblée de village mixte, mais en plus, elles avaient des assemblées de femmes. Et il y avait quand même des divisions sexuelles du travail. Donc, au niveau de la production agricole, la production agricole des femmes Igbo était plutôt à destination locale, et les hommes Igbo s'étaient réservés les productions qui pouvaient être échangées avec d'autres groupes. Et donc, les assemblées de femmes Igbo pouvaient servir, qui duraient 2-3 jours avec des danses et des repas, etc., servaient à la fois à discuter des enjeux qui concernaient les femmes, y compris les violences masculines contre les femmes. Et elles avaient un rituel qui s'appelait s'asseoir sur un homme, qui signifiait en fait que si une des femmes Igbo disait aux autres femmes Igbo, il y a mon conjoint qui me violente, l'Assemblée pouvait décider d'aller en manifestation contre cet homme et ils allaient entonner des danses, etc. Et s'il ne sortait pas pour s'excuser, ils allaient détruire en fait son habitation. Ça s'appelait s'asseoir sur un homme. Et en fait, la question, ce qui est arrivé aux Britanniques, c'est que les femmes Igbo ont appris qu'il y avait une rumeur qui disait qu'il allait avoir des taxes, des nouvelles taxes au niveau commercial sur les produits qu'elles produisaient. Et donc, elles ont décidé de s'asseoir sur l'homme britannique. Le problème, c'est que ça s'est fini en bain de sang. Mais les Britanniques, en fait, n'ont rien compris. Ils pensaient que les femmes avaient été manipulées par les hommes, etc. Mais une des décisions des hommes, ça a été d'interdire aux femmes Igbo de tenir des assemblées. Et elle ne pouvait plus participer à des activités politiques. Et donc, la puissance coloniale britannique qui se prétend beaucoup plus évoluée que, évidemment, les tribus primitives africaines, je le dis évidemment entre guillemets, mais en fait, a d'une certaine manière imposé un patriarcat beaucoup plus fort à la communauté Igbo que ce que la communauté Igbo avait traditionnellement, qui était en fait beaucoup plus égalitaire et qui était agricole. Et ça ne répond pas du tout à votre question sur l'État.
Merci d'avoir écouté jusqu'ici, on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Autre chose dont on voudrait vous parler, on vient de découvrir une fonction disponible avec la diffusion de nos podcasts. Vous pouvez nous laisser un message audio. Il suffit pour cela de se rendre sur la page encore.fm/floraison/message. On mettra le lien dans la description du podcast et de l'article. Donc vous allez sur cette page et vous pouvez, si vous voulez, enregistrer un message audio et nous l'envoyer de façon très simple. Donc si vous avez des commentaires, des messages à faire passer, un petit appel ou autre, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal et il sera peut-être intégré à la fin du prochain podcast. Voilà, c'est tout. À très bientôt sur Floraison. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires et parfois pour vos critiques quand elles nous font avancer. Vive la liberté et vive l'anarchie.
When people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that way.
Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants, qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Qui ont fait des soldats malgré nous.
Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.